La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Tariq Djeroud, écrivain, journaliste et fondateur des éditions Tafat en Algérie. Vous publiez Camus et le FLN aux éditions Éric Bonnier. Bonjour.
Bonjour, M. Barrière.
Alors, c'est un livre très documenté que vous publiez sur un aspect de la vie de l'écrivain Albert Camus qui suscite toujours beaucoup d'interrogations. Lui qui était sensible aux injustices vécues par les colonisés, quelle position a-t-il vraiment exprimé sur la guerre d'Algérie? Albert Camus qui est mort 2 ans et demi avant l'indépendance de l'Algérie, l'écrivain, on le sait, était lui-même pied noir. Alors, d'abord, comment est né ce livre ?
Tout simplement, il est né du fait de mes lectures, de mes curiosités littéraires, et du fait que je découvre que les livres qui sont publiés du côté français sont tous acquis à l'idée que Camus a dit vrai, a dit juste, du même que les livres qu'on publie en Algérie, jusque-là, disent que du bien du FLN, que le FLN c'est des héros absolus. Côté français, on dit que Camus c'est le juste, c'est le révolté juste, qu'il a une pensée mesurée. D'un côté comme dans l'autre, on n'ose pas faire une lecture critique. Sinon, ou ce que je peux dire autrement, comme la recherche des limites des uns et des autres, des acteurs de cette époque. C'est vrai que Camus aime l'Algérie, les gens du FLN aiment aussi l'Algérie, mais la révolte de Camus et la révolte des combattants du FLN n'étaient pas du même ordre, ils ne portaient pas sur le même projet. Voilà, à partir de cette différence de regard, j'ai voulu faire une recherche et mettre sur place un duel algérien, un derby, si vous voulez, un derby ou un débat intellectuel entre Camus et le FLN, en me référant uniquement à leur écrits, à leurs témoignages, à leurs ressentis, et en restant fidèles à la lettre et à l'esprit de l'époque.
Alors, vous montrez que très tôt, Albert Camus a été très sensible à la misère des indigènes, comme on les appelait à l'époque. Il était sensible à leurs conditions de vie, avant même d'écrire sur la situation.
C'est qui Camus? C'est un enfant de pauvre, c'est un enfant qui a grandi dans la misère. Il est resté imprégné et longtemps, il portait en lui des souvenirs de l'enfance. Souvenons-nous ce qu'il a dit en écrivant son premier roman, L'envers et l'endroit. Il disait toujours que l'envers et l'endroit, c'est ma source littéraire. Et sa source littéraire, sa source sociale, sa philosophie même, il y est au monde de la misère, lui-même touché par deux misères. La misère sociale et une autre misère qui est liée à sa propre santé. À travers ses écrits, on rencontre un Camus très proche des miséreux parce que c'est son propre monde qu'il voit en miroir. C'est-à-dire, il est touché, il ne s'exclut pas, il ne rejette pas, il ne méprise pas ce qu'on appelle les indigènes, mais qui sont du même condition sociale que lui.
Albert Camus va poursuivre des études de philosophie et adhérer au Parti communiste, mais vous le rappelez dans le livre, la ligne du PCF sur l'Algérie a changé au moment du Front populaire.
Effectivement, au tournant des années 1935, 1936, 1937, la politique en Europe commence à connaître un bouillonnement nouveau. C'est la montée du nazisme, la montée du stalinisme, la montée du franquisme en Espagne. Et à cette époque, le Parti communiste en France venait de rejoindre cette coalition de gauche qui voulait mettre en avant projet Blum-Violette, auquel Camus et une brochette d'intellectuels algérois ont signé, ont voulu faire sa promotion. Ça n'a pas marché. Cependant, le Parti communiste a lâché les nationalistes algériens de l'époque, c'est-à-dire l'étoile nord-africaine, qui sont des indépendantistes. Or, le Parti communiste a rejoint le Front populaire de Léon Blum, et le Front populaire est souverainiste, il est contre l'indépendance, il propose l'intégration, il propose l'assimilation. Or, pendant cette époque, intellectuellement, Albert Camus va vivre une fissure, un divorce intellectuel et politique. D'un côté, il a été militant au sein du Parti communiste, mais une fois le Parti communiste a lâché, a tourné le dos aux aspirations indépendantistes de l'ENA, Camus s'est trouvé au milieu du gué. Et entre le Parti communiste et l'étoile nord-africaine, Camus s'est retiré du combat politique sous la chapelle du PCA, mais il est resté militant avec sa plume en dénonçant les injustices, en allant courageusement défendre des Algériens devant les tribunaux, sinon à travers des articles de presse, comme l'illustre son reportage en Kabylie.
Alors justement, Tariq Djeroud, Albert Camus écrivait dans Alger Républicain, c'était du journalisme engagé, c'était aussi du reportage, il racontait ce qu'il voyait. Que racontait-il sur la condition des Algériens? Vous parlez notamment de ce fameux reportage en Kabylie.
Misère de Kabylie est un reportage d'un jeune de 25-26 ans. Il connaissait la misère algéroise. Il est allé en Kabylie, il découvre l'extension de la misère. Cette misère en Kabylie est semblable à toute la misère qui sévissait à l'époque en Algérie et qui est un fardeau véritable déposé sur l'épaule des indigènes. Camus, naturellement, il en était touché, indigné. Et à travers tous ces articles, qu'est-ce qu'on découvre? Une plume proche des indigènes, une plume qui critique les méthodes de la colonie, et puis on découvre un homme structuré dans sa tête. C'est-à-dire, sur le plan journalistique, il distingue le côté économique, le côté social, il déborde pour parler de la santé, il déborde jusqu'à la fin, il parle d'une révolution politique que lui-même appelle les réformes. C'est avec ces réformes-là que Camus voulait donner un coup de main pour les indigènes, donner aussi un coup de main pour la colonie. Parce que lui-même disait, tout ce qu'on fait pour l'Algérie, tout ce qu'on fait pour la Kabylie, on le fait aussi au bénéfice de la France.
Alors Tariq Djeroud, vous écrivez dans ce livre extrêmement intéressant, Camus et le FLN, aux éditions Éric Bonnier, qu'Albert Camus avait en quelque sorte un programme politique pour les Algériens victimes de la colonisation. Et en janvier 1956, il prend la parole publiquement à Alger sur ce qu'on appelait alors les événements. Qu'a-t-il proposé pour parvenir à la paix?
Parvenir à la paix, ce n'était pas évident. Mais Camus, lui-même, à l'époque, on doit quand même rappeler en trois mots, où était-il à l'époque? Il vivait à Paris depuis les années 42-43. Il revenait épisodiquement. Donc Paris, la France, sont sa terre d'ancrage à l'époque. Camus travaillait pour l'Express comme éditorialiste et politiquement, il soutenait un certain Pierre Mendès France. Pierre Mendès France est un réformiste. Donc, politiquement, il se retrouvait sur pas mal d'idées et dans ses écrits, dans l'Express, il mettait en avant tous les arguments politiques possibles pour faire gagner Pierre Mendès France lors des élections de janvier au février 1956. Cependant, le 22 janvier, il est invité à Alger pour donner une conférence pour la trêve civile. La trêve civile, ce n'est pas pour arrêter la guerre. Mais Camus disait que la trêve civile devait alléger les souffrances en refusant de s'attaquer aux civils. En refusant de s'attaquer aux civils, il essaye indirectement d'ouvrir une brèche de discussion de part et d'autre pour aboutir à une solution pacifique qui pourrait peut-être arranger les uns et les autres. C'est-à-dire le côté français d'Algérie et le côté rebelle algérien représenté fortement par le FLN. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats parce que après cette conférence, Camus est rentré à Paris, le comité pour la trêve civile n'a pas réussi à faire avancer cette idée, et même côté français, côté gouvernemental, ils ont tout fait pour étouffer cette initiative. D'abord, ils se sont attaqués à un ami de Camus, Jean de Maisonneuve, qu'ils ont même emprisonné. Et puis, plus tard, les autorités coloniales, le 22 octobre 1956, ont détourné un avion qui devait rallier Tunis pour se mettre à table avec Bourguiba, avec les gens du FLN, avec un ministre d'État français à l'époque, Alain Savary, qui est ministre chargé des affaires nord-africaines. Malheureusement, les autorités françaises ont détourné l'avion des dirigeants algériens et tout espoir de paix est tombé à l'eau.
Alors Tariq Djeroud, l'année 1957 a été celle de l'ultra-violence en Algérie. Comment Camus a-t-il vécu la bataille d'Alger ou des épisodes marquants comme l'enlèvement et la disparition de Maurice Audin, la torture, les condamnations à mort d'indépendantistes?
Camus se dit déchiré, il se dit malade, comme quelqu'un qui a mal au poumon. Il parlait de lui-même. Ce qui se passe en Algérie ne le réjouissait pas du tout. De 54 à 56, 57, la violence n'a pas cessé. Tous les coups étaient permis. La torture, les bombes, les combats entre les soldats, que ce soit en ville et dans les djebels. L'époque était difficile. Dans le cas de Camus, si on prend le cas de Camus, c'est quelqu'un qui disait aimer les uns et les autres. Et ce qui se passait le rendait vraiment malade. Malheureusement, ça a continué comme ça et la guerre s'est prolongée pendant 5-6 ans encore.
Alors, est-ce que son prix Nobel de littérature aurait dû être, de votre point de vue, une occasion d'appuyer le combat des indépendantistes? Est-ce que ça a été, pour Albert Camus, un rendez-vous manqué avec l'histoire?
Rendez-vous manqué avec l'histoire, sans doute, il y a à 65 ans de distance, je vois mieux les choses. Mais à l'époque, il y avait un flou. Ce que je regrette, moi, personnellement, c'est que les démocrates libéraux, ce qu'on appelait les libéraux à l'époque, les démocrates français d'Algérie et les démocrates du FLN, parce qu'ils ont existé. Il y avait plus de démocrates au FLN que de fanatiques. Contrairement à ce qu'on nous raconte, il y avait plus de démocrates au FLN, mais simplement cette conjonction ou cette réunion, cette table ronde, c'est Camus qui appelle comme ça cette rencontre, il appelle la table ronde n'a pas eu lieu. Autrement dit, si les libéraux, les démocrates du FLN se sont réunis, ils vont résoudre eux-mêmes leurs problèmes en tant qu'Algériens. Et à l'époque, les Français d'Algérie, malheureusement, ils étaient otages de la propagande du gouvernement général qui leur disait une seule chose, avec le FLN, vous allez avoir le même destin que les Aztèques. Alors que les Algériens eux-mêmes, ils cherchaient un dialogue, ils ne trouvaient pas avec qui dialoguer. Et la jonction n'a pas eu lieu, la table ronde n'a pas eu lieu. Camus, peut-être, on a surestimé peut-être son apport. Peut-être qu'il n'a pas assez fait pour la paix. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire, par peur, par angoisse, par cette angoisse par rapport à l'avenir dans un pays où les Français d'Algérie étaient minoritaires, Camus a fait le choix de sa mère.
Alors justement, il y a cette fameuse phrase qu'on a beaucoup reprochée à Camus, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, une citation incomplète dont il conviendrait peut-être de donner le contexte.
Camus avait une relation charnelle avec sa mère, tout le monde le sait, la mort du père, il restait que sa mère, et toute son affection s'est portée sur sa mère. C'est la psychologie du personnage, de l'enfant pauvre, attaché à une mère muette, il faisait corps avec sa mère. D'abord, il a écrit une lettre en 55, comme ça, en 55-56, un de ses amis, je crois, c'est Robles, il lui disait, moi, si je suis toujours du côté de ma mère. Puis, au lendemain de sa réception du prix Nobel, répondant à une question d'un étudiant algérien, il lui disait, entre les bombes et ma mère, moi, je choisis ma mère. Là, jusque-là, on peut comprendre que ben, il n'y a pas de problème entre les bombes et une mère, on choisit sa mère. Mais en 58, il a envoyé une lettre à Jean Amrouche. Jean Amrouche est un franco-kabyle pro-indépendance. Et dans cette lettre, Camille lui disait, entre ma mère et les causes justes, je choisis ma mère. Là, il n'y a pas de bombe. Et là, on voit la fragilité du personnage. Camus a choisi tout simplement la sécurité. C'est ce que je lis dans cette phrase, dans cette boutade, ou dans cette tirade, de cette foucade. Camus a choisi la sécurité. C'est-à-dire, Camus est un homme qui a peur, il ne se sentait pas en sécurité, là où les Algériens sont nombreux. Chose qu'il a lui-même expliquée dans Le Premier Homme, où il a écrit quelque part, je ne me souviens pas de la page, il disait, quand les Arabes sont nombreux, ils sont menaçants. Je pense que c'est cette faille psychologique qui lui a fait dire cette phrase, c'est-à-dire choisir ma mère au détriment de la justice, et qui a empêché Camus de rejoindre le camp indépendantiste.
Dernière question, très rapidement, Tariq Djeroud, sur Albert Camus, finalement on en est réduit aussi à des hypothèses puisqu'il est mort 2 ans et demi avant l'indépendance de l'Algérie. On se pose évidemment beaucoup de questions sur ce qu'il aurait pu dire ou faire durant ce laps de temps.
Je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à cette question. Moi je crois à une seule chose, c'est que si Camus était vivant, il aurait certainement accepter l'indépendance, parce que les accords d'Évian accordent aux Français le droit de rester en Algérie, soit en tant qu'Algérien, soit en tant qu'étranger, en gardant leur nationalité française. Camus est intelligent, Camus allait changer d'avis, parce que le problème de Camus, c'est pas vraiment l'indépendance. Le problème de Camus, c'est la sécurité des Français d'Algérie.
Merci Tariq Djeroud, je rappelle que vous avez publié ce livre absolument remarquable, Camus et le FLN, aux éditions Éric Bonnier. Merci.
Merci à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.